RMC.
Déjà, même s'il y a eu un arrachage de poney, même s'il y a eu des insultes, c'est inadmissible.
Écoutez Kevin De Bruyne dans zone mixte.
Ah ouais, en mode vénère après le match, après l'élimination.
En mode vénère, il a repassé tout le monde pour l'hiver.
Non, mais je fais comme toi, tu sais, quand tu commences à attaquer comme ça, t'avais dit moi, Mbappé, à Monaco, quand il vient en jogging et qu'il sort, c'est normal. C'est normal de faire conférence de presse, c'est normal. Mais pardon, pas, toi, tu as rien, ça, mais toi, t'es un coco, t'es un Netflix, c'est ça l'histoire, on peut pas te parler.
20h-22h, Génération After.
Simon Dutin.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes au bon endroit. RMC, le temple du foot à la radio. Le ballon ne s'arrête jamais de rouler. L'after est là tous les soirs de l'année. Avec autour de moi pour vous accompagner durant deux heures, la nouvelle génération. Elle est incarnée ce soir par Jimmy Brown, Kevin Diaz, Elton Mokolo. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Simon, bonsoir à tous.
Salut à tous.
Vous êtes en forme?
Salut Simon, salut tout le monde.
J'aime beaucoup ton survêt. Je ne sais pas quel club ça représente.
C'est mon vrai, c'est mon cas.
C'est ma compagne qui l'a rapporté d'Athènes.
Ah ouais.
Voilà. Il aura pris de Olympiakos, Panathinaikos.
Ah justement, elle m'a demandé quelle couleur je préférais.
Et toi, tu préfères le
celle de l'AEK. Voilà.
Ok, je suis d'accord.
Un hommage à Anthony Martial.
Ouais. Ou à Harold de Moukoudi.
Luka Jovic, j'ai découvert qu'il jouait là-bas, notre ami, cette année.
Moi, je suis plus Panathinaikos. J'ai été avec RMC Sport dans ce petit stade-là, le petit stade en ville.
Ah, vous avez tapé Lens en barrage de conférence.
Non, c'était Lens ou le Rennes. Moi, c'était un match contre Rennes.
Qui avait joué
un match contre Rennes.
Ouais, je me souviens, ouais.
C'est même Marseille en Ligue des Champions.
Avec une ambiance incroyable.
Le stade, il est extraordinaire. C'est un stade vétuste, mais une ambiance exceptionnelle. Et puis ce vert-là, un beau vert.
Ah, je suis plus Olympiakos par contre.
Ouais. Ah ouais,
plus Olympiakos.
Pourquoi dans chaque ville on est plus quelqu'un que l'autre?
Ah non, mais
genre Milan Inter, vous êtes plus qui?
Ah, Milan, on s'en va.
Moi aussi, Milan.
Ah oui.
Ah, non, mais l'Inter, c'est beau quand même, c'est Ronaldo,
c'est
Milan.
Là, c'est Milan.
Après,
ça dépend de quelle époque t'as accroché avec le club, etc. Moi, Milan de l'époque, c'est George Weah.
Roma Lazio, il y a quand même beaucoup, ce sera la Roma.
La Roma,
oui.
Non, mais bon, City United, à un moment c'était United, maintenant il y en a qui doivent être.
Non, ça reste toujours Manchester United.
Il y a les jeunes, ils peuvent être pour City.
À Londres, il y a un petit peu plus de choix. Ça peut
les Citix.
C'est vrai qu'à Londres, il y a plus de choix.
À Londres, je suis plus Arsenal.
Oui, ben moi, ça a failli être un maillot de Tottenham ce soir. Voilà, ça aurait pu souligner.
Moi, je suis plus Arsenal aussi. Mais... ouais.
Au programme, messieurs, jusqu'à 22h, J-9 avant la Coupe du Monde. Beaucoup de joueurs sont attendus. De nombreux coachs également. Elton est impatient d'assister à ce mondial des entraîneurs. Maintenant que toutes les listes ont été dévoilées, quelle sélection vous fait le plus peur? Venez changer votre avis au 32-16 avec celui de nos experts. L'actualité du côté de Nice au menu également. À quoi s'attendre après le maintien arraché en Ligue 1? Maxime Tilliette, notre correspondant sur la Côte d'Azur, viendra nous donner les dernières infos. À 21h, l'avis de Jimmy, qui voit le PSG déjà favori à sa propre succession en Ligue des Champions la saison prochaine. Alors, ce PSG double champion d'Europe, est-il entré, comme le pense Nasser El Khelaifi, dans le cœur de tous les Français? Venez également nous donner votre avis. En fin d'émission, les dernières infos Mercato. Olivier Giroud qui prolonge à Lille. Konaté qui se dirigerait vers le Real Madrid. Vous nous direz ce que vous en pensez. Voilà le programme. Jusqu'à 22h, on passera alors la balle à Nicolas Jamin. Pour l'after jusqu'à minuit. Salut Nico, on parle de quoi?
Salut
avec
Simon, salut à tous. L'after ce soir, vous le savez, avec Daniel Riolo, Florent Gautreau, Maxime Chano et deux invités. Le premier est un ami de l'after. Il est passé chez nous avant de grandir sur les bancs de l'AS Monaco. Damien Perrinel sera avec nous. Il a connu quatre coachs à Monaco. Il nous dira quel est le meilleur, quel est le pire. De Nico Kovac à Sébastien Pocognoli. Il nous dira s'il croit toujours en Pogba. Il nous parlera de Golovin, d'Akliouche, son évolution qu'il a vu grandir de l'âge de 19 ans jusqu'à aujourd'hui. Plein de questions à poser à Damien Perrinel, le PSG Ligue des Champions. Aussi la double confrontation Monaco qui a fait sortir Paris, le champion d'Europe. Vous vous rappelez Gilles Vessière,
arbitre? Évidemment, bien sûr. Oui.
Années 90, début 2000.
Ah, on a grandi avec
un des grands sifflets de notre Ligue 1. Gilles Vessière, le Niçois, il sort un bouquin, il sera avec nous. Là aussi, on a plein de questions à lui poser. Quel a été l'entraîneur le plus relou, le plus insupportable, le joueur le plus élégant sur un terrain?
Il avait arbitré une belle finale de Coupe d'Europe, je crois.
La Vesse, Liverpool.
De 5-4,
5-4, Liverpool.
Le CSC de Jordi Cruyff.
Il était au sifflet ce soir-là. On va parler de ça, de nouvelles règles également de l'arbitrage pour la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'il en pense? Et puis l'after du LFR hier, elle va le faire ce soir. Daniel surtout va répondre à Emmanuel Macron, puisque vous savez, le président de la République s'en est pris à Daniel sans le citer lâchement sur le scepticisme de Daniel à l'arrivée de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Là, il va en parler, Daniel. Il va répondre au PR, comme on dit dans les milieux autorisés. Et puis, l'OM doit-il vraiment s'inquiéter pour son avenir européen? Vous le savez, potentiellement exclu de Ligue Europa pour ne pas avoir, a priori, respecté un accord passé avec l'UEFA. On parle d'oseille, bien sûr, de finances. Voilà, 22h l'after.
Rendez-vous 22h avec Nicolas Jamin donc pour l'after jusqu'à minuit. On vous attend, nous, nombreux au 32-16 sur le chat de la chaîne YouTube de l'after. Twitter. Et puis venez échanger sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. Vous le savez, ce lien entre vous et l'antenne, c'est la promesse de RMC. Vous n'hésitez pas à en profiter. Génération After démarre tout de suite. Ah, ça passe vite, hein, les gars. Dans 9 jours maintenant débutera la 23e Coupe du Monde de football. 11 juin, 19 juillet, vous n'en manquerez pas une miette, évidemment, sur l'antenne de RMC, radio officielle de la Coupe du Monde. Alors on attend évidemment des stars sur les pelouses américaines, canadiennes, mexicaines. On aura également du lourd sur les bancs de touche. Rarement, voire jamais dans l'histoire, le Mondial n'aura rassemblé autant de grands noms, de fortes personnalités parmi les sélectionneurs. Cette Coupe du Monde est donc aussi celle des entraîneurs. Et ça, ça excite mon ami Elton. Avis tranché.
Il a été élu, alors pas homme du match, hein, le most
player.
Voilà, redis-le, comment tu dis
Most player, c'est ça.
J'étais là. D'ici là, je pense que j'aurais travaillé davantage sur mon anglais et sur cette manière d'être beaucoup plus fluente.
D'ailleurs, mais comment un gars comme toi, classe comme ça, moderne, écoute, tu parles pas anglais?
Écoute, je dirais pas que je parle pas anglais. Je dirais que j'ai des connaissances.
Il sait très bien se faire comprendre en anglais quand il en a besoin.
Exactement. Dans les moments décisifs, voilà. Dans les moments
charnières. Exact. Let's go then.
Alors avant de te laisser la balle, Elton, je cite quelques noms. Vas-y, évidemment, Carlo Ancelotti, Didier Deschamps, Nagelsmann, Tuchel, Pochettino, Bielsa, Scaloni. Rudy Garcia, Roberto Martinez, et puis côté français, Sabri Lamouchi, Sébastien Migné. Voilà, tu as hâte de voir ces bastons de tableau noir également, cette bataille tactique.
Alors évidemment, on va regarder la Coupe du Monde pour les interprètes, ceux qui vont être sur le terrain, ceux qui seront les plus à même de faire la différence. Et moi, j'ai un attrait tout aussi particulier, notamment pour les entraîneurs. Et moi, j'aime beaucoup le football de sélection, ce qu'il peut apporter. Et pendant très longtemps, dans cette élite du football, moi, j'avais tendance à penser que le football de sélection est un peu un parent pauvre. Manière de dire quoi? Manière de dire que, en fait, ces postes de sélectionneurs étaient surtout pour des coachs qui étaient davantage à la relance. Là, sincèrement, quand tu regardes le casting, avec notamment du Carlo Ancelotti, du Lopetegui du côté du Qatar, du Mauricio Pochettino, et j'en oublie un, du Thomas Tuchel, on parle de coachs, de sélectionneurs maintenant, qui ont gagné des Coupes d'Europe, qui ont fait des finales de Coupes d'Europe. Et moi, le fait d'avoir justement ce renouvellement des entraîneurs de clubs qui arrivent en football de sélection, pour moi, c'est très bien, parce que j'ai tendance à penser que cette Coupe du Monde 2026 doit être un tournant, notamment sur la dimension tactique. J'ai notamment regardé le match États-Unis-Sénégal avec notamment l'équipe de Mauricio Pochettino et des préceptes tactiques qui m'ont intéressé, notamment sur ce pressing haut, ce pressing agressif, cette verticalité pour mettre en avant des joueurs comme Balogun, comme Pepi, comme Joe Reyna notamment. Et moi, je me suis dit que ce passage, notamment 2026, avec ces entraîneurs qui vont arriver, qu'il va y avoir une forme de compétition, tout ça, c'est bien pour faire grandir le football de sélection, et que ces entraîneurs qui ont la volonté de s'inscrire dans la durée. Pourquoi je te dis s'inscrire dans la durée? Carlo Ancelotti vient de prolonger avec le Brésil, Nagelsmann a prolongé avec l'Allemagne, Thomas Tuchel a prolongé avec l'Angleterre. Donc c'est pas des coachs qui sont là juste pour faire un tournoi et puis s'en aller. Bon, même si, attention, ça peut aussi dépendre notamment des éliminations précoces, etc., etc. Mais pour moi, le fait d'avoir des entraîneurs clubs qui ont été dans des gros clubs, je peux également te citer Graham Potter qui était entraîneur de Chelsea, tout ça, ça m'intéresse parce qu'ils peuvent se fidéliser et ça peut justement faire un appel d'air qui va être très intéressant pour les prochains mois, avec notamment l'arrivée probable d'un certain entraîneur qu'on connaît bien, qui a gagné 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid, et pourquoi pas aussi, on l'a évoqué la semaine dernière ou plutôt il y a une dizaine de jours avec Walid, un Pep Guardiola. Raison pour laquelle je dis que cette Coupe du Monde va être très intéressante, notamment sur la dimension tactique, sur la dimension casting, parce qu'on a besoin justement d'avoir des entraîneurs phares, justement pour avoir le meilleur produit possible et avoir une Coupe du Monde qui sera pour moi de grande qualité.
Ce Mondial 2026 sera également la Coupe du Monde des entraîneurs. On en parle dans Génération After avec Elton Mokolo, Jimmy Brand, Kevin Diaz. Messieurs, en attendant nos auditrices et nos auditeurs au 32-16, votre réaction, est-ce que vous aussi, juste sur le plan factuel, le constat, vous trouvez qu'il y a un panel de sélectionneurs jamais vu jusqu'ici?
Sur le constat, c'est difficile de donner tort à Elton. Moi, je n'ai pas souvenir d'une Coupe du Monde où il y avait autant d'entraîneurs avec des palmarès si importants, avec aussi, Elton a beaucoup parlé de tactique, mais aussi des personnalités fortes. On sait que les Coupes du Monde, c'est aussi les conférences de presse, avant, après les matchs. Moi, je suis pressé d'entendre Tuchel, d'entendre Bielsa, évidemment, pour ne citer que... Enfin, oui, c'est vrai que sur les bancs, tu as un casting 5 étoiles. Ça donne envie de voir les confrontations directes entre les uns et les autres. Est-ce que ça garantit, ça présage d'une Coupe du Monde spectaculaire? Ça, je pourrais pas te le dire. Moi, je reste encore très dubitatif sur la formule à 48 équipes avec 104 matchs. C'est-à-dire que pour avoir ces confrontations directes, il va falloir attendre un peu de temps et crémer un petit peu en début de compète. Mais ça peut annoncer des duels très excitants, oui, c'est clair.
Kevin, tout Ancelotti ou Nagelsmann qui soit, ils ont la possibilité en football de sélection d'imprimer la patte qu'on leur a connue en club. Tu crois ça?
Bah, c'est un peu plus dur forcément dans le football de sélection parce qu'il y a moins de temps pour travailler. Maintenant, ça reste quand même, comme l'a dit Elton, hein. Pour le coup, c'est pas un avis tranché là. C'est un avis où on sera tous d'accord dans le sens où c'est pas clivant.
Donc t'es d'accord avec moi?
Oui, c'est rare.
Mais s'il va te dire, ils sont flingués les coachs. C'est vrai.
Les coachs, ils sont extraordinaires. C'est extraordinaire. Avant, tu sais, les sélectionneurs, c'était sans lui manquer de respect, mais c'était des Del Bosque, des joueurs comme Aimé Jacquet ou Roger Lemaire qui n'avaient pas fait des grands clubs européens. Mais aujourd'hui, en fait, les mecs, ils gagnent. Il gagne
Del Bosque, c'est pas le meilleur exemple. Il gagne une Ligue des Champions.
Non, mais bien sûr,
mais c'est vrai que Jacques Lemaire, c'est pas Ancelotti et Nagelsmann.
Del Bosque, c'est aussi dans ce qu'il dégage. Tu vois, c'est pas des grandes personnalités du football.
C'est pas
ce charismatique.
C'est pas
je parlais en effet de charisme, de prestance, etc. Après, c'est des grands entraîneurs quand même. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, le métier de sélectionneur et le métier d'entraîneur, on disait qu'il était très différent. Mais aujourd'hui, il y a tellement de joueurs. Ce qui est intéressant, je pense, c'est le parallèle avec le football de club. Aujourd'hui, les entraîneurs ont tellement d'oseille dans ces genres de clubs qu'en fait, c'est des sélectionneurs. Ils peuvent dire, lui, il me le faut. Ah, c'est 150. Allez, 145, mais on va le prendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, aujourd'hui, quand t'es à Chelsea, au Bayern, t'as un peu qui tu veux. Alors oui, il y a la concurrence, en sélection, il y a la concurrence.
Oui, mais t'as pas qui tu veux en sélection, parce que pour le coup, tu peux pas aller acheter un mec si t'as un déficit à un poste, tu vas pas pouvoir le régler avec de l'argent. Non, ça, c'est la différence.
Mais par exemple, aujourd'hui, il y a de la concurrence aussi pour les sélections. C'est-à-dire que t'as un Olysée qui pouvait choisir entre trois sélections. T'as des joueurs qui choisissent entre la sélection d'origine de leurs parents ou la sélection du pays là où ils ont grandi. Donc aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de concurrence, mais tout ça pour dire que les sélections aujourd'hui, ce sont tous des grands clubs, dans le sens où il y a énormément de grandes stars, il y a quand même des moyens pour travailler dans toutes les sélections avec des complexes d'entraînement qui sont monstrueux, avec des technologies qui sont très importantes, et donc ils ont quand même le temps d'optimiser un petit peu. Alors bien sûr, t'auras pas le projet de jeu d'un mec qui est là pendant 9 mois à peaufiner son équipe, mais tu sais que quand t'es sélectionneur de l'Allemagne, tu vas t'appuyer sur le Bayern notamment. Quand t'es sélectionneur de l'Espagne, tu vas t'appuyer sur le Barça notamment. En France aujourd'hui, tu peux t'appuyer un petit peu sur le PSG, même si on a un logiciel qui est très différent pour notre sélectionneur par rapport à celui de l'entraîneur du PSG. Et en Angleterre, t'as toujours les plus grands clubs qui fournissent les meilleurs joueurs.
Justement, Elton, tu le sous-entendais un petit peu dans ton avis. Il y a le jeu, il y a le foot, et il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Et ces entraîneurs-là qui sont passés par la routine du club, tout ça, ils vont attirer également quand même l'attention. On a envie de les entendre. Je prends pour exemple le moment où on a entendu Carlo Ancelotti prononcer le mot de Neymar Junior, cette fameuse conférence de presse de l'annonce de la liste. Je veux dire, ce sont des gens qui créent également l'événement par leur vécu, par leur personnalité.
J'ai presque envie de te dire que là, c'est le contre-exemple, puisqu'en fait, ça te prouve qu'au final, tu montes, tu descends, c'est les joueurs qui sont le plus attendus. C'est pas parce que c'est Ancelotti qui l'a dit, c'est parce que c'est le nom de Neymar.
Ça a donné une dimension quand même avec sa voix.
C'est parce que c'est Neymar que ça a fait cette folie-là, tu vois. Quand il t'a donné le nom de Ryan, t'es pas emballé devant
Non, j'aime beaucoup le
problème. Neymar, c'est le contre-exemple.
Ça va créer l'événement.
Il a raison, Simon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un manga. On est dans un manga où tous les meilleurs joueurs sont à la Coupe du Monde, où tous les meilleurs sélectionneurs.
Attention, il n'y a pas que 20.
Tous les meilleurs. Ouais, mais t'as compris. Tous les meilleurs. Malheureusement, c'est vraiment un petit pays là, mais il aurait presque pu y être. Mais où tous les. Peut-être pas tous les meilleurs entraîneurs, mais en tout cas, certains très grands entraîneurs des 20 dernières années y sont avec d'énormes sélections. Et donc, en fait, voilà, t'as tous les super guerriers, t'as tous les capitaines de la Flynet, de la Tau et de la Newpie qui sont là. Et aujourd'hui, ça va être la grande explication. Avec en plus les trois légendes qui sont encore là, donc Messi, Ronaldo et Neymar, qui font leur retour. Même Manuel Neuer, tu vois, c'est un peu le gardien allemand, tu vois, dans Captain Tsubasa, qui revient là. De sa retraite, Thomas Price qui revient
Thomas
de sa retraite
Price,
et qui va dire voilà, je vais faire la dernière Coupe du Monde avec le Japon quoi.
T'as Harry Kane qui va enfin aller la chercher avec l'Angleterre aussi. Non mais t'as d'énormes. Enfin c'est oui, il y a des, ouais,
y a des histoires extraordinaires.
Mais juste pour rebondir sur ce que disait Kevin tout à l'heure, je pense que moi j'ai parlé du côté face en disant oui, il y a 48 équipes, il y a 104 matchs, ça va être long, etc. Le côté pile, c'est ce qu'il évoquait, c'est la professionnalisation. Ce format de compétition permet de générer plus de revenus, on le sait, de mieux redistribuer à des fédérations. Et là où je rejoins Kevin, c'est qu'il y a une vraie professionnalisation du foot de sélection. C'est-à-dire que tu sens une vraie progression. Exactement. Avec des staffs complets. Et si ces entraîneurs-là, pour faire le point avec ce que disait Elton au départ, sont dans ces sélections aujourd'hui, c'est bien que, voilà, il y a des moyens différents aujourd'hui et on peut mettre en place des choses et on peut espérer que ça continue dans ce
sens-là. Il y a des moyens pour les payer aussi, les entraîneurs.
Et pour moi, c'est le point qui est le plus essentiel parce que moi, j'ai lu il y a quelques années un José Mourinho qui disait le jour où j'irai en sélection portugaise, c'est quand je serai vieux. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un repoussoir. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a de plus en plus de jeunesse. Anna Gussmann, il a quand même refusé le Bayern pour prolonger avec la National Mannschaft au sortir de l'Euro 2024. Parce qu'aujourd'hui, tu as vraiment dans l'idée qu'on peut s'épanouir dans le football de sélection et on peut travailler.
Et puis, il y a quand même autre chose pour finir, c'est la qualité de vie d'un sélectionneur. C'est-à-dire que t'as pas la pression au quotidien pour ces mecs qui ont connu.
Ah là, Carlo, il a changé de vie. Ah là, au Brésil.
Même Nagelsmann, même Thomas Tuchel, ils ont une pression monstre au quotidien dans un club, hein. Le fameux documentaire et le fameux titre. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand t'es en sélection, bon, Luis Enrique avait beaucoup de pression en sélection aussi, mais c'est lui qui allait un peu se la chercher. Mais c'est quand même, voilà, c'est une fois tous les mois, c'est 3-4 fois par an. Et après, voilà, t'as la grosse compétition où là, tu sais que t'es en vase clos pendant un mois et demi, et là, tu vas. Mais eux, quand ils sont entraîneurs d'un grand club, la Coupe du Monde, c'est
pas un attention, pour en fait. Moi, il y a quelque chose qui a aidé et tout dans cette adrénaline de la compétition. Moi, au départ, je la regardais avec beaucoup de méfiance. C'est la Ligue des Nations. La Ligue des Nations qui t'évite d'avoir des matchs amicaux à rallonge qui ne servent à rien. T'as un aspect compétitif qui permet notamment.
La Ligue des Nations, il y a Daniel Riolo qui la comprend pas.
Je vais pas aller dans le sens de Daniel, mais on est quand même à milieu entre un Euro, une Coupe du Monde et une Ligue des Nations. C'est mieux que les amicaux secs, on sera tous d'accord là-dessus, oui.
Mais je suis d'accord, mais notamment pour ces sélectionneurs, ça te permet justement d'avoir notamment cette compétition. Pour moi, c'est l'équivalent d'un Masters 1000. T'as le Masters 1000 qui est la Ligue des Nations, le Grand Chelem, ou plutôt le Grand Chelem absolu, c'est la Coupe du Monde. Mais ça te permet aussi de travailler et de rester dans une forme de compétition plutôt que d'avoir des éliminatoires face à des équipes. Bon, même s'il faut faire des éliminatoires qui te permettent justement d'avoir ce caractère compétitif.
Et puis, un casting qui prouve, vous l'avez souligné, messieurs, que. Le football de sélection n'est plus une voie de garage pour contrairement à ce que pensait moi, José Mourinho il y a quelques instants.
Et puis, juste avant de te laisser finir, il y a quand même un truc, c'est qu'aujourd'hui, même si, ok, on voit beaucoup de matchs, etc., mais si tu demandes à tous les footballeurs du monde quelle est la compétition qu'ils veulent gagner...
Ah oui, c'est la Coupe du Monde.
Bah, je pense que pour 95%, si ce n'est plus, c'est la Coupe du Monde. Il n'y a pas mieux que la Coupe du Monde, je veux dire.
Oui, c'est sûr.
Donc, ça reste quand même la compétition du football, quoi.
On va ouvrir notre débat avec Lai, qui a fait le 32-16, qu'on est ravis d'accueillir dans Génération After. Salut, Lai.
Salut, l'After.
Salut, Lai. Alors ta position sur cette discussion, c'est vrai que Kevin et Jimmy ont souligné que c'est pas vraiment un avis tranché, difficile d'aller contre le constat que fait Elton. Est-ce que toi aussi t'es excité par ce casting de sélectionneurs au Mondial 2026?
Moi je trouve vraiment c'est dommage, hein. Elton, je t'aime beaucoup de base, mais problème c'est que vous avez parlé beaucoup de jeux. Oui, c'est bien le jeu, la gagne, c'est très bien, mais j'ai pas entendu une fois où parler d'identification, de patriotisme, parce que moi, voir un Italien être sélectionneur de du Brésil, je comprends pas. J'entends des débats, est-ce que Deschamps peut aller en Italie? Pour moi, si ça arrive, c'est une catastrophe. Voir des coachs comme Rudy Garcia avec Belgique, c'est pareil, hein. Moi, je trouve pas ça. Moi, je trouve que pour moi, c'est pas une bonne chose pour
C'est un débat qui revient souvent.
C'est un débat parallèle un petit peu. Ouais, mais je suis d'accord avec ce que tu dis là. Et c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce point-là. C'est un vrai sujet.
C'est très intéressant ce qu'il dit dans la mesure où en fait l'élitisme, notamment accru du côté du football de sélection, t'amène ça, à savoir que à partir du moment où les sélections veulent progresser, elles vont pas s'embarrasser par rapport à cette notion de patriotisme. Et c'est vrai que voilà, le fait de voir Carlo Ancelotti au Brésil.
Oui, ouais, mais l'exemple d'Ancelotti est bon là. T'as vu la galère que c'était pour trouver des sélectionneurs fiables au Brésil. C'est à un moment donné, Ancelotti, il arrive après une succession d'échecs de sélectionneurs locaux. En Angleterre, c'est pareil. Il a Tuchel arrive après une succession d'échecs aussi.
Tu dois aller chercher un Italien pour venir sélectionner ton pays. Moi, je trouve que non.
Ouais, mais après, attention, si tu fais face à un plafond de verre et tout, que t'as pas des résultats avec entre guillemets un entraîneur local, qu'est-ce que tu fais pour développer ta sélection?
Bah tu dois avoir un projet.
Mais pour le coup, le Brésil, ça a été l'émission de Ruquier. On a tout essayé avec les entraîneurs locaux. Ça n'a pas marché. Et t'as même été à un moment donné, t'as terminé cinquième de la phase éliminatoire absurde.
J'entends ton argument, mais moi, tu m'excuseras, mais je suis pas du tout d'accord avec toi. Aujourd'hui, les Brésiliens, les meilleurs entraîneurs au Brésil, c'était les Portugais pendant un moment. Là, ils ont choisi un Italien. Pourquoi pas? Écoute, il faut pas.
Tu préfères la gagner avec Ancelotti que sortir au premier tour avec un Brésilien,
bien sûr. Aujourd'hui, les Brésiliens, il y a un Scolari a entraîné le Portugal. Il y a plein de pays. Les pays africains.
Il t'a posé une question. Tu trouves ça normal?
Moi, je trouve ça. En tout cas, ça ne me dérange pas du tout. En tout cas,
c'est vrai qu'on a Ancelotti italien au Brésil. Tuchel, s'il la gagne pour l'Angleterre, personne viendra lui reprocher sa nationalité.
Regarde, lui, c'est un Allemand. Il va
coacher
quand même l'Angleterre.
Il y a eu ces débats-là en Angleterre, mais ils se sont vite éteints. Regard des débuts assez pro de Tuchel qui a réussi à faire des choix importants.
Le problème c'est quoi? C'est parce que ça rompt avec quoi? Une identité de jeu? Tu te places sur le sportif?
Regarde, même nous, par exemple, moi je suis sénégalais. Avant, on allait chercher des Français ou d'autres. Mais depuis qu'on a arrêté d'aller chercher d'autres nationalités, notre sélection, elle se porte beaucoup mieux.
C'est ce que j'allais t'objecter, c'est qu'il y a beaucoup de sélections africaines qui font appel à des sélectionneurs locaux. Là où, durant des décennies, on allait chercher à des mecs qui n'avaient pas forcément de succès en Europe.
Et là, à raison de souligner, ça marche bien, pour le coup.
Oui, mais d'accord. Le Cameroun, pendant des années, a gagné des compétitions et a eu des sélectionneurs étrangers sur son banc.
Oui, il n'y a pas de règle absolue.
Pas de règle. Bien sûr que dans l'absolu, c'est mieux d'avoir un gars qui connaît le pays, etc. Mais bon, quand tu arrives sur une génération où les entraîneurs sont moins compétents, écoute.
Il y en a beaucoup, regarde, Kevin. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. C'est comme si c'était logique, quoi. C'est devenu logique pour moi, mais pour moi, c'est pas logique.
Après, attention, là où il y a un effet pervers, notamment, je vais te donner trois exemples. Je vais te donner exemple du Brésil, je vais te donner exemple de l'Italie et de l'Angleterre. Ouais. Il y a tellement d'attentes autour de ces sélections qui n'ont plus rien gagné depuis longtemps, encore plus l'Italie qui n'arrive même pas à se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est qu'il y a une pression qui est tellement importante sur les locaux que même des entraîneurs locaux qui pourraient arriver en sélection, ils veulent plus y aller. Je vais te dire, l'Italie, à un moment donné, on n'a pas envie de se griller par rapport à sa carrière. Parce que il y a aussi la dimension patriotique, mais aussi le CV. Je veux dire par là, l'échec avec ta sélection nationale, impacte fortement ta carrière.
Après, sauf contre-exemple, c'est Gattuso, il peut se planter partout, il retourne Gattuso, il a pu planter l'Italie, il retourne à la Juve derrière. Alors qu'il a pris l'Italie après avoir planté.
Mais tu vois, par exemple, là, imagine-toi un Southgate qui a fait objectivement un passage en Angleterre qui a été réussi.
Excellent.
Mais qu'est-ce qu'il a pas pris comme critique? Au point même qu'à la fin, il s'est dit, je préfère démissionner. J'ai fait finale, alors que parce que tu vois, il y a cette notion de clubisme qui arrive. Ouais, c'est un entraîneur anglais. Pourquoi il prend pas celui de Manchester?
Ça fait pas débat en Angleterre. Le fait que ce soit.
Il te l'a dit, Jimmy.
Oui, et puis même au moment de cette liste qui a été tellement.
C'est toujours pareil,
commenté,
là, ça fait débat avant. Au final, si Tuchel, il t'amène la deuxième étoile pour l'Angleterre, tout le monde applaudira et il n'y aura plus de nationalité.
Malheureusement, la gagne, ça gagne toujours.
Oui.
Là, et ton pronostic, qui va remporter cette Coupe du Monde?
Le Sénégal.
Tu réponds quoi d'autre, bien sûr.
Un petit peu de méthode couée. Merci beaucoup, là, d'être venu au 32-16 partager ton avis. Et bon mondial, évidemment, à l'écoute de RMC. Jimmy Brown, Elton Mokolo, Kevin Diaz vous accompagnent durant 2 heures jusqu'à 22h, Génération After. On continue de se projeter sur cette édition 2026 de la Coupe du Monde. Maintenant qu'on connaît toutes les sélections, toutes les listes de toutes les sélections, qui faut-il le plus craindre? Venez nous donner votre avis.